en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Dans ce livre, il est question de cartes routières et de parkings souterrains, des nuits d'Alexandre et des cheveux d'Éléonore, de l'appel du troubadour et de la couleur de l'amour, de tout cela, de bien d'autres choses encore et de bien plus que cela. De courtes, très courtes histoires nées au cœur de nos vies, mais qui nous emmènent loin, très loin, vers une forme de poésie et de philosophie de la vie, comme si l'espace de quelques lignes, le temps suspendait son vol, comme pour nous surprendre avec notre propre existence. L'auteur de ces 70 récits singuliers, à lire dans l'ordre, ou à picorer dans le désordre, et journaliste à Sud-Ouest depuis 2001. C'est dans le supplément hebdomadaire de ce quotidien régional français qu'ont été publiés ces textes pour la première fois. Les voici donc réunis. Vertige Coquelicot de Nicolas Espitalier est paru aux éditions Hérodios, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Nicolas Espitalier.
Bonjour.
Comment vous est venue l'idée de rassembler ces textes et d'en faire un recueil ?
Alors, j'en écris un par semaine depuis 3 ans et ils sont quand même conçus pour être publiés dans le MAG de Sud-Ouest. Donc, ils sont quand même pas au départ conçus pour être dans un livre, même si mon appétit pour la littérature fait que je pense que j'ai toujours eu, plus ou moins consciemment, dans un coin de la tête, la possibilité, enfin l'idée d'en faire un livre un jour peut-être. Mais ils ont une fonction dans le magazine qui est de souhaiter la bienvenue aux lecteurs. C'est la première page. Derrière, il y a des chroniques, il y a des reportages. Ça s'insère dans un travail collectif, même si c'est des textes très personnels. Donc petit à petit, j'ai donné une coloration personnelle. Et c'est devenu un truc publiable peut-être sous forme de livre. Plein de gens m'ont encouragé. On avait beaucoup de courriers sur ces éditos. Parce que ça s'appelle l'édito dans le mag. Et là, je les présente sous forme de chronique. Et voilà, plusieurs m'ont encouragé. Quelques encouragements m'ont fini achevé de me convaincre. Et puis pendant le confinement l'année dernière, j'ai eu quelques jours pendant lesquels j'ai réuni tous les PDF. J'ai fait un document Word. Je lui ai mis un titre avec une page de garde. Et puis j'ai regardé si ça ressemblait à un manuscrit. Évidemment, j'ai trié parce que certains...
Il fallait choisir, quoi, forcément.
Mais certains étaient disqualifiés d'office parce qu'ils n'étaient pas lisibles en dehors du mag, puisqu'ils parlaient du magazine lui-même, qui s'adressait directement aux lecteurs de Sud-Ouest, du samedi ou du dimanche. Mais certains, voilà, donc comme vous les avez lus, vous le savez, parlent de la Lune ou de choses qui ne sont pas spécifiques au Sud-Ouest.
Ça, c'est sûr. Mais alors, justement, quand on lit le mot édito, on pense actualité, on pense à commentaires sur la vie politique, sur les grands événements du monde, sur les problèmes de société. Là, on n'est pas tout à fait dans ce cadre-là, Nicolas Espitalier.
Absolument. C'est vrai que c'est un drôle de nom qu'on a trouvé. On avait refondé le magazine tel qu'il existait en 2018. On a dit, bon, il faudra un édito, un truc qui souhaite la bienvenue, qui incarne un peu.
Toutes les fois que vous dites qu'il souhaite la bienvenue, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est un texte d'accueil pour le lecteur.
Un peu, oui.
Il faut le prendre par la main, l'encourager, lui donner envie de lire votre texte, évidemment, et ensuite de feuilleter le magazine.
De feuilleter le magazine, oui. Je pense que c'est aussi une plus-value, comme l'idée de ce magazine, c'est d'avoir un temps de lecture. C'était un peu l'idée. Mais c'est vrai que par rapport aux éditos, au sens habituel
du journalisme, alors,
Sud-Ouest dispose de 3 excellents éditorialistes qui font leur taf quotidien dans le quotidien. Et donc, cette espèce d'édito du mag, c'est un espèce d'ovni. Alors, c'est vrai que j'en ai fait un espèce d'objet littéraire au fil du temps, avec la complicité et la connivence de tous les gens qui travaillent dans mon service avec moi.
Plus littéraire que journalistique,
en
réalité.
Ouais, il faut être honnête.
Bon, mais en même temps...
Révèle des choses. Il y a des révélations, quand même. Il y a de l'info, le temps passe vite. Et
voilà, donc ça, c'est quelque chose de très important. On va revenir sur la notion du temps, parce que c'est effectivement quelque chose de fondamental. Alors, ces petits textes, ils font un peu moins de 2 pages. Hein. À la base, les lecteurs les ont donc découverts dans des colonnes de journal. Ça veut dire quand même, j'imagine, écrire avec une place limitée, donc un nombre de signes maximal, puisqu'on est dans la presse écrite, et écrire aussi en temps limité.
Oui, c'est un exercice un peu... J'ai livré mon dernier de la saison hier, et j'avais 1h30, 2h devant moi. C'est quand même un processus industriel, un article. C'est un article de journal, comme il y en a plein d'autres tous les jours dans mon support, sur le site internet, sur les différents supports, tout ça. Donc, c'est un parmi des milliers d'autres, donc je ne peux pas faire la diva en disant, attendez, retardez les rotatives.
Oui, ça, c'est pas possible.
Voilà, et à un moment, il faut savoir aussi parfois les bâcler, parce qu'on n'a pas le temps.
Alors justement, la question du temps et la question de la brièveté des textes. Ce sont 2 contraintes ou c'est une forme de...
Oui, c'est la contrainte qui libère.
C'est la contrainte qui libère.
En amoureux de l'Oulipo que je suis, j'apprécie la contrainte. C'est 2000 à 2300 signes. C'est quand même une liberté, cette différence-là. J'ai quand même...
Vous avez une petite marge de manœuvre.
Une marge sympa. Et puis, après, le temps, c'est livré toutes les semaines un truc. Alors, au début, j'y ai passé des dimanches entiers. Maintenant, j'ai appris à gérer mon temps parce que je fais d'autres choses par ailleurs. Donc, c'est la partie la plus visible de mon travail. Ça devient un livre. Mais dans mon activité salariée, c'est une toute petite part, en fait.
Alors, on va en entendre un exemple. Notre réalisateur Guillaume Buffet a mis en onde un chapitre du livre baptisé « Maisons abandonnées ». Nous sommes à la page 47.
Pénétrer dans une maison abandonnée constitue une expérience vertigineuse. On pousse la porte. Elle racle le sol. Le silence est trop épais pour qu'on entende quoi que ce soit d'autre que le silence lui-même. Quelque chose d'invisible nous prend à la gorge. Est-ce la poussière, le fantôme de celles et ceux qui ont vécu là, notre propre peur de l'abandon? Ça pique les narines. On le sent. Il y a eu un jour précis où quelqu'un est sorti d'ici pour la dernière fois. Ce quelqu'un le savait ou ne le savait pas. Ce quelqu'un partait pour l'épicerie, un rendez-vous galant, la guerre, la ville, la maison de retraite. Comme il était le dernier à partir, personne n'a demandé à ce quelqu'un vers quelle heure il comptait revenir. Ce quelqu'un est parti avec nonchalance et un parapluie. Il vaut mieux l'avoir et ne pas en avoir besoin que de ne pas l'avoir et d'en avoir besoin. Ce quelqu'un est parti. La mort dans l'âme, la fleur au fusil ou inversement. À reculons, les pieds devant, à pas compter. Ce quelqu'un n'est jamais revenu. Abandonnée, la maison a continué de battre jusqu'au dernier plic-ploc du dernier robinet, jusqu'au dernier tic-tac de la dernière horloge, jusqu'au dernier souffle alcalin de la dernière pile. Alors la maison a cessé d'y croire et le silence a tout figé. Le temps a fait son œuvre, comme on dit. Et on fait bien de le dire comme ça parce que le temps est un grand artiste. Il sape, il érode, il sublime. La table avec, dessus, la dernière tasse de la dernière tisane, il en a fait une statue de poussière. Il a changé les couleurs, il a mis du brun rouillé ici, du blanc salpêtre là, du gris toile d'araignée dans les coins et sur le papier journal, il a teinté les nouvelles de la veille du jaune éclatant de l'histoire. Quand nous entrons dans une maison abandonnée, nous rêvons de trouver un trésor caché. Il y en a un, c'est l'horloge, le parapluie, le journal, la table, la tisane. C'est la vie de tous les jours, tant que les jours se succèdent. C'est ce qu'on a dans notre propre maison, jusqu'au jour où, à notre tour, nous l'abandonnerons pour partir à la guerre ou à l'épicerie, sans savoir qu'on ne reviendra pas.
Alors racontez-nous, Nicolas Espitalier, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce petit récit ?
En tout cas, ça fait drôle de l'entendre, je dois dire. Ça fait plaisir d'entendre, parce que ce texte est joué. Et quand j'écris, c'est un peu de l'artisanat, je déplace des virgules. Des fois, je peux passer un quart d'heure à savoir si je mets l'incise à tel ou tel endroit, la virgule avant, la virgule après. Et là, j'avais pensé à la musicalité du plic-ploc, ouais, du dernier robinet, du tic-tac de la dernière horloge. Et l'entendre jouer, ça veut dire que... Enfin, je vois que ce travail que j'ai fait sur le rythme, sur le tempo, sur la musicalité des textes, on l'entend là de façon plus frappante que quand on le lit, c'est émouvant.
Alors, l'idée, oui, de la maison abandonnée.
J'en ai visité une.
Tout simplement.
Oui,
tout
non,
simplement.
En fait, j'en ai visité plusieurs.
Oui,
mais peu de temps avant, j'en avais visité. Alors, en fait, il faut savoir qu'à chaque fois, là, ça a disparu des chroniques, mais à chaque fois, je prends un petit prétexte d'un article qui se trouve dans le mag. Et là, il y avait un papier sur un hameau abandonné. Et donc, ça m'a fait penser aux différentes visites que j'ai fait, enfant, ado, et tout récemment aussi en Corrèze, de maisons abandonnées. Et c'est vrai que c'est un truc hyper émouvant, en fait, de voir les papiers jaunis.
Et donc, vous partez toujours de votre propre expérience, de votre vécu. Ouais. L'imaginaire intervient dans un deuxième temps.
Je sais pas, il y a un peu les deux, je pense. Des fois, bon, après, c'est comme dans la littérature, je pense qu'on prête à nos personnages des choses qu'on a vécues, des choses qu'on aurait bien aimé vivre, des choses qu'on nous a racontées que d'autres ont vécues. Et tout ça, ça fait de la littérature. Donc là, c'est pareil, parfois, c'est pas du tout moi, je pense que c'est pour ça que c'est de la littérature, en fait.
C'est le prix Goncourt Jean-Paul Dubois qui signe la préface du livre et il utilise, je trouve, une très jolie expression, Polaroid philosophique. C'est une expression dans laquelle vous vous reconnaissez ?
Ouais, ça m'a vachement... assez marrant parce que c'est une sorte de résurgence de mes études. J'ai étudié la philo, j'ai aimé la philo en terminale beaucoup, tout ça. Donc j'en ai lu, après j'en ai pas fait carrière, mais j'ai eu une licence de philo. Et c'est curieux parce que je me suis rendu compte que plein de fois que je faisais un peu des choses qu'on identifiait comme philosophiques sans que je me sois dit « Ah, je vais faire un truc philosophique. »
Moi, je me suis dit, il y a un petit côté philosophe péripatéticien, ce qui n'a rien à voir, évidemment, avec ce à quoi on peut penser. Hein, voilà. C'est-à-dire que vous vous baladez dans l'existence, dans la vie, sur le terrain, Vous vous laissez happer par vos pensées, on vous imagine un petit peu contemplatif quand même, et vous réfléchissez.
Oui.
Sans forcément y penser, peut-être.
Ouais, ben, peut-être. Je pense que du coup, j'ai acquis une espèce de tournure d'esprit qui fait ça. Mais à propos de la préface de Dubois, il dit des trucs incroyables. Enfin, je suis hyper. Je profite de l'occasion parce que je sais qu'il a déjà été votre invité.
Oui.
Pour dire que c'est quand même un auteur que j'adore et c'est un homme adorable qui m'a fait un honneur incroyable en écrivant cette préface. Qui est, c'est le meilleur texte du livre. Il est au début, donc vous pouvez.
Ouais, vous extraordinaire. Pouvez le lire. Paul Dubois, on est bien d'accord. Et il parle de ces instants fragiles. Et c'est vrai qu'on a un peu le sentiment que finalement, tout ce qui unit l'ensemble des textes, Nicolas Spitalier, c'est cette notion de temps, de temporalité. Est-ce que le temps va trop vite, Nicolas Spitalier?
Oui, je crois que je me suis rendu compte en les compilant. Parce qu'en fait, j'en écris un par semaine, donc on est déjà tourné vers le suivant. Et puis quand je l'ai envoyé, je dis « c'est bon, j'ai envoyé l'édito », puis je passe à autre chose, et à un tableau Excel ou à des mails. Et donc, je n'avais pas pris le temps de lire ça. Et en les lisant bout à bout pour le construire, parce que du coup, j'ai reconstruit, j'ai choisi aussi l'ordre des textes, une forme de temporalité aussi de lecture. Enfin, du coup, c'est vraiment de la construction, un peu artisanale toujours. Je me suis rendu compte que ça, quand même, ça parlait beaucoup de la fuite du temps. Et bon, c'est évidemment pas un thème inconnu de la littérature, puisque il est même partout, tout le temps. Donc, on réécrit tous sur le même livre.
Et c'est cette fuite du temps-là, c'est le fait que le temps va trop vite qui, d'une certaine façon, nous en fait perdre un petit peu le goût.
Mais peut-être. C'est vrai que, quelquefois, avant, j'ai mis une phrase là qu'on m'a envoyée par texto récemment. Un copain a relevé l'importance de cette phrase à ses yeux. C'était on est trop occupé pour vivre. Et c'est vrai que des fois, si on fait des bilans quotidiens de ce qu'on fait, on court beaucoup, on like des machins, on poste des trucs et on envoie des mails. Mais est-ce qu'on a vraiment vécu? Des fois, je me pose quand même la question, comment profiter de ce court laps de temps-là qu'on a à vivre entre...
À la page 77, un chapitre qui est central à plus d'un titre. On est à mi-chemin du livre et il évoque, ça tombe très bien, il évoque le ventre. On écoute.
Nous ne pensons pas suffisamment au ventre, qui se cache humblement derrière le nombril. Il est pourtant considéré par les spécialistes comme un deuxième cerveau. Or, nous avons besoin des deux. Le cerveau crée des chimères, le ventre gargouille. Le corps est une cathédrale. Pratique pour les militaires en quête d'un endroit où planter leurs baïonnettes, comme pour les ventriloques qui craignent de faire un bide, le ventre est le fourre-tout de ce que nous sommes. Il le doit à sa position idéale, à mi-hauteur comme un tiroir, et à sa formidable contenance. Malheureux de ne pas avoir inventé eux-mêmes un truc aussi commode pour le rangement, alors que c'est leur spécialité, les Suédois doivent pleurer en suédois, c'est-à-dire avec pas mal de trémas sur les trémolos. Dans le ventre, on peut loger une poche stomacale, 5 ou 6 mètres d'intestin grêle, un bon 1,50 m de gros intestin, un foie, une vésicule biliaire, une rate, un pancréas et pas mal d'autres organes tout aussi utiles les uns que les autres pour assurer la transformation des aliments, la reproduction de l'espèce et le train de vie des chirurgiens. Et une fois qu'on a casé tout ça, quand le bazar a l'air plein à ras-bord, il reste quand même de la place pour le petit creux de 11 heures, qui est drôlement encombrant pour un simple morceau de vide. On peut encore tasser là-dedans une tonne de complexes et une multitude d'injonctions sociales, et ce n'est rien à côté de l'essentiel. C'est au ventre qu'on a la peur, la rage et la boule. C'est là qu'on place la reconnaissance, le courage, les tripes. Le meilleur de nous-mêmes, le plus pur, le plus profond. Ne dit-on pas que c'est ce qu'on a dans le ventre? Voilà pourquoi de temps en temps, quand la vie tient ses promesses et que l'étincelle d'un regard nous met des papillons, ça ne peut être que là. C'est beau quand on y pense.
Ouais, vous écrivez quand on y pense avec un A hein, et non pas avec un E, petit clin d'œil humoristique. Quand on évoque justement les nouvelles, les textes courts comme ceci, Nicolas Spitalier, on parle toujours de la question de la chute, des tout derniers mots hein, qui restent dans l'esprit du lecteur, un peu comme le goût du chocolat ou d'un bon vin, vous qui êtes de Bordeaux. Les deux dernières lignes de chaque chapitre, vous les soignez particulièrement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Des fois, en plus, c'est marrant parce que des fois, c'est des jeux de mots... vaseux ou simple.
Mais pourtant, ils peuvent toucher.
Et je pense que j'essaie de faire en sorte qu'ils prennent une force par ce qui précède, en fait.
Oui, c'est la façon de les amener, en fait, voilà. Qui les met en valeur.
Du coup, on se dit, ah ben, tout ça, c'est beau quand on y pense. Genre, le mec avait l'idée de faire un jeu de mots avec pense, et il a fait tout un texte là-dessus. En fait, c'est pas le cas, ça finit par arriver au moment
où... Vous n'avez pas votre chute avant de commencer à écrire.
Non, par contre, ce qui m'est arrivé, c'est des fois de commencer, de trouver une idée drôle qui moi me fait rire et après de pas trouver mieux et de me dire ah, et en fait si c'est vraiment de la construction, hein, c'est comme un rythme de film ou de chanson quoi. Et si la vanne la plus drôle est à la cinquième ligne et qu'après après il y a rien d'aussi bien, bah c'est pas très bien construit. Et mais après des fois c'est un parti pris d'être drôle au début puis triste à la fin. D'ailleurs, Jean-Paul Dubois, après avoir lu les textes, m'avait dit ça, qu'au début, ça partait comme un peu, pas de la farce, mais il avait une expression mieux que ça, que je ne saurais pas reproduire, mais ça avait l'air de rien au début, puis qu'à la fin, parfois, on restait devant un abîme philosophique. Donc, j'essaie de varier, en fait, que ce soit pas toujours la... Je ne vais pas faire construire toujours pareil, ouais. Puisqu'il faut que ça se lise, que ça soit agréable à lire. Quoi.
Voilà, et c'est vrai qu'il y a les chutes, il y a les attaques aussi, hein, les toutes premières lignes, qui sont aussi particulièrement soignées, et c'est vrai que souvent, elles nous font sourire. Quelques exemples. Hein. On a le droit d'avoir de la tendresse pour les cartigènes. Premier exemple. Deuxième exemple, où commence l'espace ? Alors là, c'est quasiment un sujet de philosophie du bac. Il y a une gare en chacun de nous. Alors là aussi, ça ouvre des perspectives assez intéressantes. Avec l'agneul, on distille de belles histoires. Ou encore, il ne faut pas prendre la décoration pour une potiche, alors que l'inverse est tout à fait possible. Et tout de suite, il y a un charme comme ça qui opère à partir de ces mots. Quelle est l'alchimie d'une bonne formule, Nicolas Espitalier ? Est-ce qu'il y a un processus mental qui vous conduit à les trouver ? Elles vous arrivent comme ça naturellement ou c'est vraiment un dur labeur intellectuel ?
C'est une bonne question.
Je crois que dur labeur, c'est un petit peu un pléonasme.
Non, non, ça marche aussi. Mais je suis sûr qu'il y a des labeurs faciles, ça se trouve. C'est très varié, mais je pense qu'effectivement, ce qui est difficile pour celle dont je suis le plus content, c'est d'avoir. Il faut quand même s'extraire de la pensée quotidienne, en fait. C'est-à-dire que quand on lit 60 tweets avec la forme de sarcasme qui existe sur Twitter ou l'espèce de ce second degré là, quand on lit un truc, quand on envoie des mails stéréotypés, quand on a la tête dans des fichiers Excel, tout ça, s'extraire de ça pour trouver une poésie qui n'a pas ce ton là, ben ça demande parfois du temps. Des fois, je reste une heure et j'ai rien à dire qui me paraît mérité. Et parfois, ça part. Alors, en fait, j'ai une recette.
Ouais.
Alors, bon, évidemment, je craignais le procès en vialatisme, parce que j'aime beaucoup Vialat.
Oui, Vialat, forcément, oui.
Mais après tout, pourquoi pas? Je peux l'assumer, parce que je l'ai beaucoup lu, je lis encore beaucoup, j'adore. Et Bec Bédé, qui a chroniqué ce livre Vertige Coquelicot récemment dans sa chronique du Figaro, immédiatement, qu'elle est taxée de vialatisme,
oui.
Ce qui est évidemment un compliment dans sa bouche et que je prends comme tel. Et alors, en fait, j'ai plusieurs recueils. Il y a des recueils de Vialat où c'est classé par ordre alphabétique de thème. Et je crois qu'il y a un truc qui s'appelle recette. C'est celui qui l'a classé qui l'a appelé recette. Et ça dit, si vous avez à parler de quelque chose, commencez par n'importe où. Et en fait, ça, plein de fois, j'ai envie de parler d'un truc, je sais pas par où commencer, et je me dis, c'est simple, il suffit de commencer par n'importe où. C'est ce que raconte Vialat en une phrase, et c'est vrai que voilà, il suffit de commencer par n'importe où. Alors,
on a le droit d'avoir. C'est là, et puis ensuite, on saute dans le vide.
Mais oui, on a le droit d'avoir. Et une fois que j'ai écrit, en vrai, il y a une gare en chacun de nous, en fait, tout le monde peut finir le texte, en fait. Tout le monde avec ses propres gares. C'est vrai, c'est évident. Et plein de fois, je mets plein d'exemples, des inventés, des machins. Et j'essaie pas d'être exhaustif parce que là je cite 2-3 gares de cinéma célèbres qui m'ont marqué, je sais pas, celle d'Harry Potter où les personnages foncent dans un mur et passent dans un autre monde, ou celle évidemment du Bon, la brute et le truand, non, de Il était une fois dans l'Ouest au début là. Et en fait j'essaie pas d'être exhaustif et de faire une thèse sur les gares. Je me dis que chacun, je laisse l'espace à chaque lecteur de dire, ah, et des fois quand des collègues viennent me voir, ils me disent, ah, t'aurais pu parler de ça aussi, je me dis, c'est réussi, puisque ça lui a fait penser à ça. Et voilà, c'est un peu, c'est fait quand même un peu pour le lecteur, en vrai.
Voilà, il y a aussi évidemment souvent d'autres clins d'œil au niveau des titres, hein. Toi le flair que je n'ai jamais vu, Jean-Paul Dubois salue Jean du Jardin en trois mots, hein. Donc les gens du Jardin, évidemment, un texte qui parle des jardins de province et qui les compare à une Yougoslavie ou à une RDA, il fallait quand même les oser. Est-ce que justement vous êtes un écrivain de province, Nicolas Espitalier ?
Eh bien, faut croire. Faut croire que. Ouais, non, mais je m'attendais au fond à ce qu'on me pose plus souvent cette question. Et en fait, oui, malgré moi, c'est vrai que En tout cas, j'aurais du mal à inventer des histoires qui se passent à Saint-Germain-des-Prés, mais j'ai pas du tout de mépris ou de condescendance envers ça.
Mais c'est la province qui vous permet justement d'appréhender le temps de cette façon si différente de tous ceux qui vivent à Paris.
Peut-être. Après, je me dis que... Enfin, que... On parle bien de ce qu'on connaît. Enfin, c'est vrai que, enfin, les grands romans de Steinbeck, ils se passent en Californie, là où il est né, où il a grandi, où il a vécu. Donc, quelque part, s'il n'a pas besoin, si Steinbeck nous avait parlé de Berlin-Est, ça aurait peut-être pas été, enfin, peut-être qu'il l'a fait d'ailleurs. Mais voilà, c'est la force, il la tient aussi de la connaissance de ce dont il parle. Et sa Californie, elle est universelle et j'y retrouve ma Dordogne natale. Et donc, je pense que parfois, quand j'écris, il y a un texte qui s'appelle Le Confluent de Limeuil, qui parle du confluent de la Dordogne et de la Vézère dans un petit village de Dordogne, tout près de là où j'ai grandi. Et je pense que mon confluent de Limeuil, chacun en a un, sauf que c'est pas le confluent de Limeuil. Et donc, je l'ai testé en faisant lire. Je fais lire à mes collègues, à mes potes. Et quand ça leur inspire, ah ben moi, c'est tel ruisseau dans l'Aude, et moi, c'est tel, c'est telle falaise ou tel lieu, ben voilà, je me dis que ce confluent de Limeuil, et on en a un chacun. Et en le typant, en décrivant vraiment le mien avec passion, et ben je pense que ça touche au cœur de chacun qui peut reconnaître son propre confluent.
Merci beaucoup, Nicolas Espitalier. Vertige Coquelicot est paru, je le rappelle, aux éditions Hérodios.
Ils font des pleurs, des manies, les armes ont manie, ils ont pas le fascicule. Algérien comme Benzé, j'suis dans la Benzo, tu connais le véhicule. Oh la ciné, trop charmée, elle veut son gâté, elle a vu l'attitude. Monte à bord de l'avion, j'ai pris des ronds, on va prendre l'altitude. Les petits charbonnes pour du Balmain, il pleut des balles même quand c'est la canicule. Y'a le mauvais oeil qui marcelle, bébé c'est Marseille, tu connais le matricule. Quand je vais mal, ils sont ravis, pourtant c'est la vie, ouais j'ai pris l'habitude. Quartier 4 saisons, j'ai mes raisons, si j'ai besoin de solitude. Maman, j'suis fier comme baba. Jamais je passerai aux aveux. Et pour m'évader là-bas, je mélange le shit et la beuh. T'es de Arbi comme ça là, on en a fait du sale. Mais avec les yeux on triche pas, c'est cette vie sinon quelle vie. On a les disques d'or, on a du Gucci d'or. On rentabilise, on a pété le score. On a les disques d'or, on a du Gucci d'or. On rentabilise, on a pété le score. J'suis rentré de chaud, j'suis refait, un billet sur le côté. T'inquiète pas pour la maman, pour le petit frère l'avocat. J'suis rentré de chaud, j'suis refait, un billet sur le côté. T'inquiète pas pour la maman, pour le petit frère l'avocat. Est-ce qu'il intéresse, c'est l'Audi RS, c'est rempli la pellicule. Je connais par cœur la TS, j'ai des cas le S, prends mon snap, fais ta pub. Quartier Nord, cité Carter, me noter par terre devant tout le quartier. Audemars, Philippe Patek, dis-moi Psartec, si j'ai fait du papier. Je ralentis, j'ai les palettes, sur du chef Hesny, j'ai fait le tour. La bécane frotte, la bavette, y'a qui je t'abarrête, tout dans le four. Et madame voulait balayer, je demande sa mano, j'arrêtais pas de zoner. Je sais pas combien de gens m'ont trahi, je deviens parano, comment les pardonner. Oui, les petits ont grandi. Sur le terrain comme Manny, c'est la mélodie des bandits, guitarisé comme Johnny. Elle veut Gucci et le Fendi, l'anneau sur le doigt et la OG. Elle est chargée comme Akista, c'est cette vie sinon quelle vie. On a les disques d'or, on a du Gucci d'or. On rentabilise, on a pété le score. On a les disques d'or, on a du Gucci d'or. On rentabilise, on a pété le score. J'suis rentré de chaud, j'suis refait, un billet sur le côté. T'inquiète pas pour la maman, pour le petit frère l'avocat. J'suis rentré de chaud, j'suis refait, un billet sur le côté. T'inquiète pas pour la maman, pour le petit frère l'avocat.
ALG 63 dans VMDN sur RFI, extrait du nouvel album de l'Algérino Moonlight, disponible depuis aujourd'hui.
Café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Hortense Vol, Penaï Traoré, Muriel Mahalouf et Alain Pilot. Bonjour tout le monde.
Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Cette semaine, Alain, vous allez nous parler du retour de Didier Sustrac.
Oui, celui qui nous a enchanté notamment avec Tout Seul ou Zanzibar, pour ne citer que. Il revient avec un double album, dont le premier avec deux duos en compagnie de Princesse Erika et de Marianne James, et le second disque qui est un meilleur d'eux.
Au menu également, une plongée dans la mer, mais une mer imaginaire. Ce sera avec vous, Muriel.
Oui, c'est ça. Je vais vous emmener en bateau dans cette mer imaginaire. Après tout, c'est l'été. Je vais vous en dire un peu plus.
Voilà, on ira à Porquerolles, plus précisément dans le département du Var, dans le sud de la France. Et puis l'art contemporain aussi avec vous, Kpenaï. Comme la semaine dernière, nous irons à Toulouse dans le cadre de la saison Africa 2020.
Pour vous présenter une publication qui a permis aux artistes africains d'accéder à des galeries internationales et qui a surtout contribué à faire connaître la photographie du continent. Tout à l'heure, nous en parlerons.
Alors, vous étiez à Toulouse il y a quelques jours, mais on y est déjà un petit peu. Et c'est avec vous cette fois, Hortense. Et c'est avec Amadou et Mariam, les indétrônables tourtereaux de la scène malienne, que s'est ouverte dimanche dernier la 26e édition du festival Rio Loco.
Un événement, Jean-François, lui aussi labellisé saison Africa 2020, normal, dans un subtil mélange entre talents émergents et mémoire vivante. Sa programmation est cette année entièrement dédiée aux musiques du continent et de sa diaspora. Et je peux vous dire que les contraintes de jauge ou de distanciation sociale n'ont en rien gâté l'ambiance de ces retrouvailles tant attendues entre le public et les artistes. Écoutez plutôt comment Hervé Bordier, le directeur artistique du Rio Loco, résume en trois mots l'ambiance qui règne sur la prairie des Chiltres depuis dimanche.
Alors, bonheur, partage et puis envie. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on y a tous rêvé de cette édition. Les gens qui ont travaillé au niveau de l'équipe, mais aussi on le voit dans le partage des artistes, cet aspect chaleureux. C'est un peu comme un nouveau bébé, un nouveau concert, et que ce soit Fatoumata, Amadou et Maria, enfin tous les artistes, c'est comme si c'était leur premier concert. Donc il y a une énergie folle. Et ça, c'est assez, enfin, dans ma vie en tout cas, de festivalier et de festival, je crois que c'est l'une des premières fois où j'ai autant d'énergie, autant de bonheur entre les artistes et le public.
De l'Algérie au programme avec l'hommage à Rachid Tah, emmené par Sofiane Saïdi, au Ghana avec le groove afrofuturiste Donipa, toutes les Afriques, Hortense, sont représentées en musique au Festival Toulousain.
Oui, même celle que la communauté internationale ne reconnaît pas, Jean-François. Et je pense ici au Somaliland, un petit pays de la Corne de l'Afrique qui revendique son indépendance depuis 1991, mais que l'on considère toujours comme partie intégrante de la Somalie. L'une de ses plus fières ambassadrices, la bien nommée Sarah Algan, Sarah la combattante, a formulé plusieurs vœux au micro de Vous m'en direz des nouvelles avant de monter sur scène. Tenant ensuite dans une même main son micro et son drapeau, la chanteuse somalienne irlandaise a ambiancé la prairie des Chiltres à coups de compositions originales sous influence rock et ethio-jazz.
D'abord, qui retient la Somaliland existe et qui retient aussi la seule chose qui réunit dans ce monde où on vit, c'est la musique, au jour d'aujourd'hui, qui retient ça et puis qui vient nous voir en Somaliland et puis qui continue à chanter et venir voir des artistes qui viennent ailleurs qu'en France et qui vous transmettent leur richesse en tant qu'artiste.
Et si la programmation de Rio Loco cette année est entièrement dédiée au continent africain, elle fait également la part belle aux voix de femmes, puisque sur 24 groupes ou artistes programmés, il y a plus de 12 chanteuses, Hortense.
Oui, la malienne Fatoumata Diawara, la germano-nigériane Ayo, l'angolaise Pongo, et parmi mes coups de cœur de la semaine, Kolinga, un sextet afro-folk basé au Pays Basque, non loin de Toulouse, donc, et que son titre avec Gaël Faye, Congo, a contribué à faire connaître. À sa tête, la chanteuse Rebecca Mbungu, elle revient pour nous sur le secret de son groove.
Mais forcément, la musique de Kolinga est inspirée par mes origines congolaises. Voilà, moi, je n'y ai pas vécu, mais j'y suis allée plusieurs fois. Voilà, mon père est du Congo-Brazza et j'ai toujours baigné dans cette culture-là, dans les danses traditionnelles, dans les rythmes traditionnels et même la musique populaire de là-bas. Donc forcément, ça coule dans mes veines et puis j'ai été baignée dedans très jeune. Donc même inconsciemment, je suis sûre que ça m'influence, comme la musique congolaise aussi a influencé le monde entier, en fait.
Jeté dans les eaux, un peu malgré moi, l'appel est si fort. Que je me perds.
Alors Gaël Faye a pu se produire hier soir au Rio Loco, Hortense, mais pas Kolinga.
Et non, une pluie tropicale, on a malheureusement décidé autrement, mais le groupe est en tournée en France tout l'été pour
Pour avoir assisté à leur ballon, je ne saurais trop vous recommander de ne pas les louper.
Et en cette fin de semaine, au Rio Loco, d'autres artistes vont porter haut les musiques du Congo.
J'attends en effet avec impatience l'arrivée ici, en bord de Garonne, de la meute kinoise afro-techno-punk Foulou Miziki, avec qui d'ailleurs pour RFI Labo, nous allons enregistrer une session lab qui sera prochainement disponible. Et puis bien sûr, les concerts dimanche de Monsieur Relema et en clôture de Jupiter et Oquest, en compagnie desquels je vous laisse.
Le festival Rio Loco, c'est jusqu'à dimanche à Toulouse. Merci beaucoup et merci également à Benjamin Sarallier qui vous accompagne à Toulouse, Hortense. Allez, on reste à Toulouse avec vous. Cette fois, Penaï, la Ville Rose accueille en effet l'exposition Revue Noire, une histoire d'art contemporain africain. Alors rappelons qu'entre 1991 et l'an 2000, près de 3500 artistes ont été publiés dans ce magazine précurseur de l'art contemporain africain. Une exposition faite d'installations, de peintures, de littérature, de musique ou encore de photographies.
Et l'exposition s'ouvre avec la sculpture appelée Les Lutteurs Nouba, une œuvre d'Ousmane Sow. Deux lutteurs, les muscles saillants et parfaitement modelés avec du matériel de récupération et de la boue, sont au corps à corps. Cette œuvre, l'une des plus fortes du sculpteur sénégalais et qui fait partie de la collection des abattoirs, a illustré la toute première couverture de Revue Noire en 1991.
Oui, une revue qui a joué un rôle déterminant dans la reconnaissance des artistes africains dans le monde de l'art contemporain.
Le magazine a magnifié pendant 10 ans toutes les formes d'expression artistique du continent africain. La peinture, la sculpture, la littérature, le cinéma, la mode, la danse et surtout la photographie. Jean-Loup Pivin, l'un des 4 fondateurs de Revue Noire.
On voulait montrer surtout une diversité, montrer que la photographie, c'était pas 3 photographes, c'était des dizaines de photographes qui travaillaient dans toutes les directions, qu'il n'y a pas que la photographie de studio, il n'y a pas la photographie uniquement de ces années 60, il y a de la photographie de toutes les époques, avec dedans des gens qui faisaient un travail déjà sur la photographie du réel, qui essayaient de photographier le réel sans qu'on leur demande rien, des gens qui faisaient des recherches esthétiques, il y avait déjà de tout le temps. Et que la photographie en Afrique évoluait en même temps que l'ensemble de la photographie dans le monde entier.
Si certains photographes comme Malik Sidibé ou Seydou Keïta sont connus du grand public, d'autres par contre sont tombés dans l'oubli à un moment donné. C'est le cas du photographe sénégalais Mama Kassé qui a joué un rôle avant-gardiste dans cette discipline. La position du corps vers l'avant, le regard et les costumes sont les éléments centraux de sa composition photographique. C'est ce qu'on retrouve dans ses œuvres exposées aux abattoirs. Des femmes avec de grandes coiffes ornées de bijoux et des hommes en boubou et chéchia sur la tête fixent l'objectif des poses cadrées serrées qui exprime la tristesse ou la joie sur le visage.
Alors dites-nous-en un petit peu plus, Penaïs, sur Mama Kassé.
Mama Kassé était un photographe sénégalais qui a immortalisé le Sénégal des années 50 à 60. Personnalité des milieux privilégiés ou gens ordinaires, tous sont passés devant son objectif dans son studio appelé African Photo et installé dans le quartier populaire de la Médina, dans la capitale sénégalaise. Ses photos, essentiellement des portraits en noir et blanc, n'ont pour seul décor qu'un simple rideau en arrière-plan pour faire ressortir toute la splendeur des personnes photographiées. Et malheureusement, toutes ces archives sont parties en fumée en 1984 dans l'incendie de son studio. Et Mama Kassé n'a pas eu toute la reconnaissance qu'il méritait de son vivant.
Et là, ce que vous avez, c'est les premiers photographes que l'on connaît. On voit par exemple Mama Kassé avec des photos qui sont rarissimes, où on voit à quel point ce photographe a structuré quasiment toute la photographie de l'Ouest, d'Afrique de l'Ouest. En plus, lui est à Saint-Louis, donc c'est la ville des élégantes. Avec dans des poses en plus particulièrement travaillées, qui en font effectivement l'artiste de référence. Là, on voit à quel point c'était des photos qui montraient le talent immense de ce photographe. Quoi. C'est grâce à Aboudin Medunsey, le photographe, que j'ai connu Mama Kassé, et j'ai connu juste avant qu'il meure. Quoi. Il est mort juste avant une exposition que Bouna faisait à Dakar, pour un mois de la photo, 92 je crois. Il est mort 2 mois avant, c'était un désastre.
L'exposition, riche de 300 photographies et d'une quarantaine d'œuvres d'art, dégage une ambiance des années 60. C'était la fièvre des indépendances dans la plupart des pays africains. Le soleil des indépendances en référence à l'ouvrage d'Amadou Kourouma, une période accompagnée de changements de la société sur plusieurs décennies. Ce sont ces moments-là qui sont captés par plusieurs photographes à travers le continent. Les nuits chaudes quinoises, les visages de paysans ivoiriens, l'humanité des fous d'Abidjan, la vie sur les trottoirs dakarois, entre autres.
Revue Noire, ce n'était pas qu'un simple magazine. Kmenaï, la publication, a aussi produit quelques enregistrements originaux.
Les différents parcours de l'exposition se découvrent sur fond de chansons produites par Revue Noire, car oui, le magazine est aussi musical. Il a produit des disques de plusieurs artistes, comme le Malien Boubacar Traoré, dit Karkar, à l'époque du Mali Twist, ou encore le groupe de rap sénégalais PBS, Positive Black Soul. Ces CD étaient distribués avec le magazine imprimé en version bilingue français-anglais.
On faisait des disques où on enregistrait les gens qui n'avaient jamais enregistré. C'est pour ça qu'on avait enregistré les premiers groupes de rap comme les PBS. Il y avait un groupe de rap à Madagascar qui était totalement amateur parce que les PBS avaient déjà, ils n'étaient pas connus, mais ils avaient un travail très abouti. Mais c'était les premiers groupes de rap parce qu'on voulait montrer dans les disques qu'il y avait une diversité de générations qui cohabitaient dans une même ville, dans un même pays. Et qui fabriquaient des musiques très différentes, dont certaines étaient très originales, d'autres qui, au contraire, étaient oubliées de la tradition, etc. On ne cherchait pas à fabriquer des vedettes, mais il y avait des disques chaque fois qui montraient un petit peu le son d'une ville, quoi, avec tous les talents nouveaux qu'il pouvait y avoir.
Toute cette richesse artistique est condensée dans un livre d'art intitulé Revue Noire, Histoire, Histoire au pluriel, que les fondateurs de Revue Noire viennent de publier.
Et cette exposition Revue Noire est une histoire d'art contemporain africain à voir jusqu'au 28 août 2021 aux abattoirs, donc à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Merci Kmenaï. Allez, direction la Méditerranée à présent. Rien de plus naturel avec l'été qui arrive. Il est quasiment déjà là d'ailleurs, Muriel. Il s'agit d'une île, ouais. Porquerolles, dans le sud de la France. On n'est pas très loin de Toulon, dans le département du Var. C'est là que la fondation Carmignac se niche, dans un espace naturel préservé. Une fondation dédiée à l'art contemporain qui vient d'inaugurer sa nouvelle exposition, La Mer Imaginaire. Et vous l'avez donc visitée pour nous.
Oui, arriver à la Fondation Carmignac, c'est déjà tout un chemin, Jean-François. Vous prenez le bateau ailleurs et puis vous débarquez dans cette île préservée. Peu d'habitations, quasi pas de voitures et la forêt. Vous vous rendez à pied jusqu'à la Fondation à travers les arbres et les senteurs méditerranéennes et vous êtes accueilli avec un verre d'eau de rosée recueilli au petit matin.
Magnifique.
C'est le paradis. Hein. Enfin, vous découvrez la Fondation entourée de jardins. C'est une ancienne ferme transformée en musée dont la plus grande partie est enterrée. Une architecture qui se fond parfaitement dans le paysage et qui a inspiré Chris Sharp, commissaire de l'exposition La Mer Imaginaire.
Quand j'ai vu l'espace, je me suis dit, bon, il faut le transformer en aquarium, dans une sorte de musée d'histoire naturelle sous-marin, ou bien en un aquarium. Donc, il y a une sorte de sélection, plus une quarantaine d'œuvres, des différents artistes, la peinture, la sculpture, les photos, les films. Il y a carrément un peu de tout dans cette expo. Et je voulais justement donner l'impression de se balader presque non seulement dans un aquarium, mais que, comme si on était nous-mêmes sous la mer, quoi. Et se balader avec des animaux, des poissons, des baleines, etc., sous la mer.
Et pourquoi ce titre de l'exposition, Muriel, La Mer Imaginaire?
Et parce que c'est aussi une mer rêvée avec ses animaux et sa flore. Ainsi, Miquel Barceló, l'artiste catalan de Majorque, qui travaille aussi régulièrement en Afrique, nous invite dans une grotte sous-marine, mystérieuse et parfois effrayante. Charles Carmignac, directeur de la Fondation.
Cette année, donc Miquel Barceló était invité, il devait rester 5 jours, en fait il est resté 3 semaines, pour une carte blanche en écho à la mer imaginaire. Alors il a imaginé une œuvre traversée, comme il le dit, par la catastrophe. Elle s'appelle Ressac. Donc il a invité une sorte de vague géante violente à venir ravager les espaces, et on voit ce qu'il en reste une fois que la mer s'est retirée. Donc il y a une dimension de grotte, hein, qu'on voit dans beaucoup de son travail précédent. Il y a une dimension de cathédrale, puisqu'il a peint un petit peu sur les vitraux. Et il y a une nouvelle dimension de son travail, qui est une sorte d'atelier d'artiste inondé. Et après, une sorte de tsunami.
Donc c'est une œuvre dans laquelle on rentre, qui nous enveloppe.
Complètement, en fait. Lui, il ne voit même pas ça comme une grotte, il voit ça comme une peinture qu'il a projetée sur l'architecture et que l'on pénètre au plafond, sur les murs, au sol, il y en a partout. Tout l'étage a été recouvert de sa peinture.
Et au centre du musée, un plafond d'eau transparent laisse passer la lumière. Les œuvres, les murs sont ainsi éclairés de reflets changeants avec le soleil. Juste sous ce plan d'eau, Bianca Bondy, l'artiste sud-africaine, a installé une œuvre gigantesque. Un squelette de baleine renversé semble léviter vers le plafond. Bianca Bondy.
Un décès, c'est jamais un fin. Un fin, c'est jamais un fin. C'est le début d'autre chose. Et du coup, j'ai trouvé ça extrêmement beau qu'une corps de cette taille, quand ça meurt, en fait, ça nourrisse un tel nombre d'espèces de bactéries avec des minéraux rares qui se trouvent au fond marin, qui ne pourront pas se trouver autrement, et pendant, pas disons, un mois, des milliards et des milliards d'années. Et du coup, les scientifiques, ils sont en train de dire que, en fait, c'est vraiment quelque chose qui mérite de plus en plus de recherche, et bien sûr, c'est complexe, c'est vraiment sous-marin, et au point qu'ils voient déjà que ça a un impact assez large sur la séquestration de carbone, et ils disent bah, peut-être on devrait repopuler le monde des baleines.
Oui, des œuvres qui se situent finalement entre art et science, Muriel.
Mais difficile de faire autrement quand on s'intéresse au monde sous-marin. Beaucoup d'artistes sont aussi très engagés, Jean-François, dans les questions environnementales. Nicolas Floch photographie depuis plusieurs années les océans et les mers. Une de ses œuvres dans l'exposition est une captation de la couleur de la mer à Porquerolles.
La première couche océanique, les 200 premiers mètres, où il y a de la lumière, la chose la plus courante, c'est de la couleur. Et donc, je photographie dans différents endroits juste cette couleur. Et je la montre là dans l'exposition. Alors, soit je fais des tirages sur du papier, ou je fais des tirages sur des films que je place sur des vitres pour qu'on récupère cette transparence de l'eau. Et là, c'est une image qui a été prise au large de Porquerolles, où on voit ce bleu méditerranéen et la lumière est teintée par ce bleu, déterminé en grande partie par le vivant qui se trouve dans l'océan et par la composition du milieu marin. Le plancton aussi, qui participe à cette couleur, absorbe une grande partie du CO2 d'origine anthropique, jusqu'à 25% du CO2, produit la moitié de l'oxygène qu'on respire. Donc on est connecté quelque part à cette couleur.
Alors vous le disiez tout à l'heure, Muriel, la Fondation Carmignac est entourée de jardins. Est-ce qu'il y a des œuvres en plein air ?
Absolument, l'exposition se prolonge à l'extérieur. Trois requins argentés, dressés, semblent danser, entourés par les immenses cannes de Provence. C'est une œuvre de Jean-Marie Apriou. Et puis, il y a ce drôle de couple qu'on découvre dans la pénombre, Charles Carmignac.
Dans un pavillon, on va pouvoir rencontrer une œuvre de Mathieu Mercier, qui va nous faire rencontrer dans un dispositif très spécial deux êtres qui sont une sorte d'énigme complètement de l'évolution. Puisque c'est une évolution à rebours, ça s'appelle les axolotls. C'est des créatures qu'on trouve au Mexique et qui ont fait une sorte de mouvement inverse de l'évolution, qui sont des êtres terrestres, qui sont redevenus aquatiques, tout à fait bizarres, avec des mains à la place de pattes, ils sont très très humains. Et puis d'autres apparitions et présences dans les jardins, donc tout le parcours est vraiment mêlé entre intérieur et extérieur.
Voilà, la mer imaginaire, c'est plus de 40 œuvres, en plus des pièces et installations permanentes. Difficile de parler de tout, mais si vos pas vous emmènent dans le sud de la France cet été, ne manquez pas de faire une halte à Porquerolles pour découvrir la Fondation Carmignac.
Eh bien, ça donne envie, merci beaucoup Muriel. Muriel Mahalouf dans le Café Gourmand de VMD.
À quoi rêves-tu si tu dors? À ton front, je m'ennuie.
Mon Paris brésilien, un extrait du double album de Didier Susrac. Marché derrière, Alain, mais il faut bien préciser que Didier Susrac n'est pas un jeune talent.
Mais non, mais un artiste talentueux qui nous a régalé notamment avec ce morceau, c'était à l'été 1993.
Tout seul les hommes, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, les hommes.
Ouais, tout seul, énorme succès hein, de Didier Susrac.
Repris trois ans plus tard en 1997 par Feu Pierre Vassilou.
Oui, d'ailleurs, Didier Susrac apprécie particulièrement la bossa nova.
Et oui, il a une nature douce, Didier, et pour la paix et l'harmonie, ce n'est pas pour rien qu'il va chercher cette musique à laquelle il est sensible. Derrière son côté relax, on peut, si on le souhaite, entendre aussi une colère, fait-il remarquer.
Deux femmes sur cet album.
A commencer par Princesse Erika, avec elle, c'est une longue histoire qui date de 1994. Pendant la tournée promotionnelle des artistes Polygramme, Génération Musique, Didier Susrac faisait alors ses débuts avec d'autres nouveaux artistes de l'époque, Pascal Obispo, Bruno Maman, Zazie. La vie les intrimbalait ici et là avec son lot de surprises. Il y a quelques mois, Princesse lui a fait l'amitié de venir chanter sur ce nouvel album. Fort est de constater que leurs batailles se ressemblent. Ils ont dans leur combat les mêmes armes, leurs chansons. Ensemble, ils chantent Langue de Bois, une composition joyeuse et subversive. Deux mots sur cette sorte d'arme, Princesse Erika, avec qui vous êtes allé à l'école du showbiz, Didier, et qui prépare un album avec Louisville.
Princesse, bah, c'est une amitié d'abord, et c'est aussi le désir et le plaisir de retrouver une sœur d'armes, comme je l'appelle. Les amitiés dans ce métier-là sont rares, enfin chez moi. C'est un métier quand même on rencontre beaucoup d'égos. Il faut des doubles portes pour qu'on se rencontre. Et Princesse fait partie de ces rares amitiés que j'ai. Et c'est vrai que quand j'ai écrit cette chanson, je pensais pas à elle, hein. C'est plus tard, je me suis dit, j'aimerais bien faire ce duo avec une femme, parce que je voulais que des duos féminins. Et d'un coup, m'est venue cette idée à la fois banale, mais à la fois qui a beaucoup de sens. Du premier blabla que j'ai entendu, c'était son blabla à elle. Et je me suis dit que ça faisait sens, parce que c'est une amie, une copine d'école, en fait. Et elle correspond vraiment au personnage, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche, c'est quelqu'un qui est assez trash, qui dit ce qu'elle pense. Et voilà, je pensais que ça faisait vraiment sens. Donc, d'une pierre deux coups, je l'ai appelé, et puis voilà, on s'est retrouvé avec le même plaisir qu'on retrouve un ami d'enfance ou d'école, quoi.
Bla bla bla, dis ce que tu voudras, ton bla bla bla.
Langue de bois, Didier Sustrak et Princesse Erika sur RFI en duo. Et puis un autre duo hein, avec Maya James cette fois.
Oui, pareil, une ancienne connaissance de Didier. Ils se sont retrouvés sur un festival à Avignon. À un moment, elle lui a lancé un peu en blaguant « Sur ton prochain album, je reviens chanter avec toi, tu m'invites ?» Pour plaisanter, il a dit oui. Et finalement, quand Didier Sustrak a fini l'album, ils en étaient au mixage et a décidé d'appeler Marianne pour qu'elle vienne chanter avec lui. Mouchoir, elle a emmené quelque chose de très fort dans cette chanson, constate-t-il.
J'avais plié dans mon mouchoir, l'amour froissé, le froid des cœurs.
Mouchoir, Didier Sustrak et Marianne James, et puis une troisième femme, Rosa Passos.
Bon, Didier a adapté un texte que l'on a écouté au début, et c'est lui qui nous la présente.
Pour faire un résumé très court de Rosa Passos, c'est Juan Gilberto en jupe. C'est ce que Juan Gilberto avait dit de Rosa Passos. Je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, c'est une des seules voix féminine qui joue la guitare, qui est auteur, compositeur, interprète, etc., qui a cette grâce de Juan Gilberto, qui a cette magie d'être à la fois léger sur la musique, à la fois d'être dans une rythmique à la fois souple, libre et très rigoureuse, et avoir cette légèreté. On peut résumer ça comme ça. Rosa Passos, c'est Juan Gilberto en jupe. Oui.
Donc double album pour Didier Sustrak, dont un des deux est une compilation de sa discographie. Pourquoi ?
Ben, ces trois premiers albums sont sortis dans des majors. Quand le numérique est arrivé dans les grandes maisons de disques, il y a eu un grand balayage. Ça a été un véritable massacre pour beaucoup d'artistes dont Didier Sustrak a fait partie. Ils ont été virés pratiquement du jour au lendemain. Après, il a continué sa route en enregistrant trois albums tout seul. Le producteur Laurent Ballandras lui a racheté ses trois premiers albums. Didier en avait quatre. Il a trouvé que ça avait du sens de sortir une compilation.
Rappelons l'intitulé de son disque, Marcher derrière.
Qui signifie pour Didier Sustrak prendre le temps de la réflexion. Marcher derrière, c'est nous laisser enfin la possibilité de nous émerveiller dans la confiance du geste, la joie du partage et la conscience d'un temps apaisé. Alors de ces trois citations à base du verbe marcher, laquelle, lesquelles Didier pourrait-il faire sienne ou pas ? Parler, c'est marcher devant soi, Raymond Queneau, écrivain du XXe siècle, romancier, poète, dramaturge français. Ou bien marcher doucement car vous marchez sur mes rêves, William Butler Yeats, poète et dramaturge anglais, irlandais, pardon. Ou encore avoir marché quelqu'un, on connaît sa pensée, c'est De Petrone, écrivain romain, auteur du Satyricon.
J'aime bien cette dernière. Je trouve qu'il y a la psychologie du geste. C'est vrai qu'on voit souvent une attitude comme ça, un pas pressé, un pas lent, un pas désarticulé, un pas raide, un pas... Et moi, mon marché derrière, bah, je suis un peu souple mou. Souple tranquille. Ouais, j'aime bien. La troisième. Oui, tout le gars de vous, merci beaucoup.
Moi, je préfère marcher derrière.
Merci Alain, merci aussi à Muriel Pénaillé et Hortense. Dans un instant, le journal. On se retrouve lundi avec Hélène Segarra. Ce sera le jour de la fête de la musique. Bon week-end à tous. Et vous m'en direz des nouvelles.
Toujours fier, préfère marcher loin devant pour se montrer ou avoir.